Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous allons avoir une émission un peu spéciale dans la mesure où, pour nos auditeurs, qui sont des auditeurs essentiellement en langue française, nous allons parler d'une grande revue en langue d'oc, Louguet-Saber. Louguet-Saber, avec son directeur de cette revue, qui est Jean Salles Lousteau. Jean Salles Lousteau, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Alors, si vous le permettez, avant, je vais faire quelques annonces pour les publications nombreuses que nous avons reçues. Malheureusement, nous ne pouvons les traiter toutes et je me bornerai essentiellement aussi pour ne pas prendre trop de temps sur notre invité à trois publications uniquement cette semaine. La première, il s'agit des éditions Pierre Ménard, hein, qui sont des éditions d'ici, en Occitanie, d'excellentes éditions dont il faut saluer un des numéros de ces publications, qui est un recueil de Christian Ibon, qui s'appelle 10, les trophées, qui est suivi de Avant toute chose, chez Pierre Ménard. Alors, depuis 65 ans que le monde existe, Christian Ibon, il est toujours assis dans le salon du doute et de l'ennui. Le rire est son vin préféré. Les Arlésiens aperçoivent régulièrement sa silhouette d'ange déçu au détour des ruelles de la vieille ville. Voici ce que dit Christian Ibon. Je vous présente quelques relevés d'empreintes de feu de ma forêt personnelle. André Ardelet disait à propos des faits, André Ardelet, auteur que l'on a, je crois, malheureusement oublié, des gens de certaines générations, donc c'est laissé. Bon, les gens disent à partir de la soixantaine, mais je suppose que notre jeune ami là ne connaît pas André Ardelet. Voilà. Bon, je crois que c'est dur quand même parce que c'est un très 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 grand auteur et surtout quelqu'un qui a une profondeur quand même, une profondeur dont on aurait bien besoin dans cette époque. Alors il disait à propos des faits, donc ce fameux André Ardelet, qu'elles guettent le promeneur qui leur plaît et leur fantaisie ignore nos limites. Ces limites, dit Christian Ibon, j'ai voulu les transgresser par la poésie. Seul terreau propice à la plantation des mots, capable peut-être de les attirer. Et parfois, elles ont surgi à travers ce braconnage du merveilleux. Mes rituels d'approche sont devenus de plus en plus lisibles. Le bal s'ouvrait. J'étais souvent un pâle cavalier, mais la piste était là. La découverte réelle. J'entends par là une lucidité imaginaire de ce monde sauvagement majestueux. M'a conforté pour écrire cette courte biographie de leurs états et de leur secret enthousiasme quant à nous rencontrer, si elles le désirent seulement. Voilà. Donc, vous voyez, un ouvrage donc d'une très grande originalité que je vous invite évidemment à vous procurer. Je pense que nous aurons l'occasion ici à Radio Occitanie, à la rentrée cet automne, de revenir sur cet auteur. Retenez donc le titre, Christian Ibon, 10 les trophées, aux éditions Pierre Ménard. Ensuite, Thierry Metz, toujours Pierre Ménard qui publie ça. Thierry Metz qui est un de nos grands poètes, dernier grand poète français. Thierry Metz qui était manœuvre de son état et qui a été ébloui par la lecture de la poésie contemporaine et qui s'est mis à écrire alors qu'il n'avait jamais touché à la poésie avant. Et ce qu'il a écrit a été vraiment d'emblée dans l'essence même de la poésie actuelle. Et il a été publié même chez Gallimard. Une œuvre donc qui est d'une grande densité. Et Thierry Metz a eu le malheur dans sa vie d'habiter un petit village. Un de ses enfants, en traversant la rue, a été renversé par une voiture et son enfant est mort sous ses yeux. Et Thierry Metz ne s'est jamais, absolument jamais remis évidemment de ce traumatisme. il a écrit là-dessus des poèmes d'une tragédie vraiment quasiment insupportable. Et il est tombé dans l'alcoolisme. Et peu de temps après, bien qu'ayant pu travailler à la bibliothèque de Bordeaux, Thierry Metz a mis en place. Il n'en demeure que c'est une voix qui est une voix absolument unique, peut-être, dans cette poésie contemporaine. Et il faut absolument lire donc Thierry Metz. Nous avions fait venir sa veuve à la maison de l'Occitanie il y a 2 ans, parce qu'il y avait une rétrospective de Thierry Metz. Et c'est très bien que Pierre Ménard donc, fasse de nouveau revivre donc cette œuvre importante, puisque en 1989, Thierry Metz se voit attribuer le prix Froissart pour Dolmen. Alors, le prix Froissart, c'était un prix à cette époque-là quand même assez important, Dolmen, hein, qui avait été publié par les cahiers Froissart, et les prix Voronka, qui étaient décernés à Rodez à l'époque, pour Sur la table inventée, qui avait été publié par Jacques Brémond. Et puis, donc, Gallimard avait publié le journal de manœuvre, c'est-à-dire son journal, puisqu'il était manœuvre dans le bâtiment, hein, vivait de ça. Et Lettre à la bien-aimée, en 1995, qui atteindront un cercle de lecteurs ne demandant qu'à s'élargir. Et voilà ce que nous allons demander ici, c'est que ce cercle des lecteurs de Thierry Metz s'élargisse avec cette petite publication qui s'appelle Le Grainetier, suivie de Avec Costa, Axelos et les problèmes de l'enjeu, et une préface d'une poétesse que nous avons beaucoup, beaucoup aimée ici, qui s'appelle Isabelle Lévesque. Voilà, je vous invite donc à vous procurer cet ouvrage. Nous en reparlerons avec Isabelle Lévesque. Cet ouvrage vous coûtera 14 euros. Voilà, j'arrête là les annonces. Donc nous allons maintenant parler de Louga Saber, mais en préambule, si vous voulez bien, nous allons écouter un chant des troubadours à Chantard avec Gérard Zucchetto.
Thank you.
c'était donc Gérard Zucchetto. Donc, je vous invite également à vous procurer toute l'œuvre musicale de Gérard Zucchetto, qui est actuellement en plein travail, puisque il y a le festival des troubadours, hein, Art Ensemble, qui démarre maintenant et qui va se prolonger, je crois, jusqu'au mois de novembre. Alors, vous trouverez sur le site de cette émission, lespoètes.site, le programme de ce festival occitan, donc sur les troubadours et la musique des troubadours. Alors, nous avons avec nous ici, dans ce studio de la rue d'Assali, nous avons Jean-Salles Lousteau, donc directeur de cette revue Louga Saber, et qui est assisté de Clément Pêche, qui est un animateur bien connu, bien sûr, de Radio Occitanie.
Je l'ai été,
Et
oui.
et qui va nous aider, notamment dans la lecture de certains textes de cette revue. Alors, je dis ceci parce que nous adressons dans cette émission les poètes essentiellement à un public francophone. Voilà. Mais bien entendu, et c'est, comment dirais-je, le leitmotiv, ce que je dis avec mes invités de la littérature occitane, il faut que les Français, ceux qui ont l'habitude de la langue, d'entendre la langue occitane, mais qui ne la pratiquent pas bien, puissent avoir les deux versions. Et c'est pour ça que, par exemple, Trobavox, qui publie les poètes contemporains en occitan, comme Franck Bardou, comme Privat, tous ces poètes-là, il les publie dans les deux langues. Dans les deux langues. Ça permet à des gens qui ont une approche assez lointaine, malgré tout, de l'occitan, du fait de ce manque de pratique, hein, de pouvoir avoir accès à une œuvre majeure. Voilà. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de cette grande revue Louga Saber. Et il faut que, je pense que le public francophone, le public qui pratique le français, mais qui ont une approche de très, très, comment dirais-je, assez vague de l'Occitan, ne croit pas que cette revue leur est interdite. Bon, parce que je pense que l'Occitan, quand même, se lit très bien avec quelques notions, hein. Et par ailleurs, vous allez trouver dans cette revue alors, des articles d'une qualité littéraire qui est absolument remarquable. Alors, Jean-Salles Lousteau, Louga Saber, c'est une vieille revue, puisque le numéro 551, qui est paru à l'automne de 2018, est le centième numéro.
Voilà, c'est non pas le centième, le
C'est le
500,
centième du centenaire, pardon.
mais
Oui,
c'est
le cent,
mais c'est le
oui, c'est le
numéro.
551e numéro, pardon. Mais voilà, ça fait 100 ans,
Ça
donc,
fait 100 ans. En fait,
voilà.
ça fait précisément
Juste
100
après la guerre
ans.
de 14.
Oui, c'est précisément le 6 juillet cette année donc, qu'on fêtera les 100 ans de l'Escole Occitane. Voilà, donc ben, les événements, on les connaît. C'est la guerre de 14, c'est toute une population qui est décimée. On peut dire aussi c'est une culture qui est frappée à mort, hein, pour la culture occitane, d'une certaine manière. Et donc, se sont retrouvés un certain nombre d'acteurs de premier plan, ici à Toulouse, qui ont décidé de fonder sur de nouvelles bases ben, l'occitanisme qui était déjà en germe à cette époque-là. Et alors, les gens dont il est question, eh bien, il y avait, alors à l'époque, le baron, puisqu'il était baron des Alzars de Montgaillard. Il y avait bon, des noms qui sonnent aux oreilles des gens qui s'occupent un peu d'Occitan, qui sont Prosper Estieux, Antonin de Berbosque. Voilà,
Antonin
ce sont ces
Berbosque,
gens-là que l'on retrouve,
oui.
qui sont des poètes d'ailleurs.
Oui,
Nous
oui,
sommes
oui, 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 oui.
complètement dans vos préoccupations, qui sont des poètes et qui ont une réflexion sur la langue, sur son avenir, sur ce qu'il convient de faire et de dire désormais. Et en 1919, Mistral est mort depuis 4 ans, 5 ans, il est mort en 14, juste avant la guerre. Donc le Félibrige d'une certaine manière, est amené à reconsidérer ses points de vue, ses positions. Les occitanistes, ici à Toulouse, cherchent une voie nouvelle. Et ces gens-là ont une particularité commune encore, c'est qu'ils sont tous membres de l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse. La vieille Académie, héritière théoriquement d'ailleurs du Consistoire Hidalga Isabé, cela nous ramène à toute l'histoire de la langue occitane et donc 7 siècles auparavant. Or, l'Académie des Jeux Floraux ne s'est pas beaucoup intéressée à l'occitan. Il était clair qu'elle n'allait pas s'intéresser beaucoup plus à l'occitan qu'elle ne l'avait fait avant cette période. Et ces gens-là, donc, ont décidé qu'il fallait s'occuper d'occitan. Et donc, ils ont créé une revue qui était à cheval un petit peu sur l'Académie des Jeux Floraux et sur le Félibrige. Ils lui ont donné le nom d'Escole. Alors, Escole, à l'époque, ce n'est pas une école. C'est plutôt une section du Félibrige, mais occitane, c'est-à-dire qu'il voulait lui donner une portée panoccitane, c'est-à-dire que tout le territoire du sud de la France était intéressé par leurs propos. La revue s'est appelée Louga Isabé. Le titre, tout le monde le comprend, c'est le gai savoir, la Gaia Scienza dont parle Nietzsche, c'est-à-dire, en fait, on reprend l'histoire là où on l'a laissée, c'est-à-dire le gai savoir, c'est le savoir des troubadours, c'est le savoir profane, hein, et non pas religieux, c'est la poésie, naturellement, et c'est une matière toujours incandescente, et le titre, bon voilà, c'est un titre tout à fait poétique, et qui a tenu jusqu'ici, peut-être est-il un peu à l'origine d'ailleurs de la durée de la revue, qui sait. Peut-être les noms ont-ils une vertu. Et donc, voilà, la revue a été lancée à ce moment-là. Au début, c'est un bulletin, Louga Isabé, c'est le bulletin de l'Escole Occitane. Et puis, l'Escole Occitane n'aura comme seul objet, finalement, que de produire la revue. Cette revue, elle a été publiée sans interruption pendant 100 ans. Donc, ce qui est déjà
Exploit.
un exploit, c'est assez remarquable. Dans un premier temps, pour répondre toujours à vos préoccupations de bilinguisme, de traduction, elle a été en occitan et en français. Et puis, petit à petit, elle est passée uniquement à l'occitan. Et un autre objectif de la revue, c'était un objectif pédagogique. Donc, Louga Isabé, vous voyez, c'est le versant poétique, création, créatif. L'autre objectif, c'était un objectif pédagogique. Il s'agissait de faire passer la graphie occitane partout. Donc, elle a été uniquement écrite, non pas en graphie mistralienne, félibréenne, mais en graphie occitane. Alors, selon les principes de Père Bosc à cette époque-là, tout ceci s'est précisé au cours du temps. Mais aujourd'hui, bon, ce sont les principes d'Alibert, tout simplement. Voilà un peu pour la présentation. On pourra revenir sur quelques étapes intermédiaires si vous le voulez.
Au départ, cette revue, je parle de la graphie de la langue. Les félibres étaient présents dans cette revue.
Ils étaient
Ah,
félibres, mais leur graphie n'était pas la graphie félibréenne, c'était la graphie occitane.
dès
Dès le départ,
1919,
dès le départ.
dès
Et la revue
1919.
a été fondée avec pour objectif d'introduire et de diffuser la graphie classique de l'occitan. Donc dès le début, c'était l'objectif. Et d'ailleurs, cela a une incidence aussi sur les choix de la rédaction, c'est-à-dire tous les articles qui ne sont pas des articles de création poétique en particulier, sont des articles écrits en occitan standard. Et ça, depuis que des gens comme Estieux, puis ensuite Joseph Salva, qui s'en est occupé très longtemps, mon prédécesseur, Philippe Carboun, bon, évidemment, nous continuons sur cette lancée. Donc, il y a pour les articles un occitan, c'est l'occitan standard, ce qui fait aussi que c'est facile à lire, parce qu'à partir du moment où on a quelques teintures et un peu de bonne volonté, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, qui ne parlent pas occitan tous les jours, mais qui s'abonnent et qui lisent nos articles. Donc, ça ne doit pas être si difficile que ça.
Alors, vous avez parlé de l'Académie des Jeux Floraux. L'Académie des Jeux Floraux, effectivement, avait pour vocation, au départ, quand même, de promouvoir aussi la langue occitane. Et puis, très vite, quand on pense qu'on a des poètes comme Goudouli, quand même, qui est la sommité de la culture poétique en langue d'oc, très vite, quand même, cette académie a versé dans le français. Et il a fallu attendre quand même, il y a eu une espèce de sommeil de la langue pendant quand même très longtemps.
Oui, alors c'est en fait ce sommeil, il a été un petit peu secoué par les occitanistes toulousains, hein, l'école Mundine en particulier. Donc il y avait des gens très décidés. Et c'est un peu en réaction hein, à ces coups d'aiguillon que l'Académie des Jeux Floraux, ou du moins quelques membres, ont lancé l'Ugaï Sabé. Voilà, c'est un jeu d'action-réaction. Il faut ajouter aussi que le 100e anniversaire sera fêté par l'Académie des Jeux Floraux au mois de juillet, donc, qui organise une fête.
Oui, à
Vous
l'hôtel des
serez
Césars,
invité.
oui. Mais je crois qu'il faut d'ailleurs, là, pour revenir à notre époque contemporaine, je pense que c'est, on sent qu'il y a un renouveau, mais il y a une faiblesse quand même, par la participation, par exemple, des poètes au concours de l'Académie Jules Floraux. Je pense que ça ne reflète pas la réalité de cette culture poétique en langue d'oc.
Peut-être les
Voilà.
efforts de
Il
l'Académie
faut.
des Jeux Floraux en
Voilà.
direction de l'Occitan
Oui.
sont-ils mal perçus, mal
Oui.
compris? En tout cas, les nôtres, je crois
C'est
pouvoir
pour
vous dire
ça
qu'ils sont
qu'il
bien
faut.
compris.
Oui.
Actuellement, bon, vous voyez, les numéros que vous avez sous les yeux correspondent à une
Oui.
nouvelle série. Nous avons complètement renouvelé la présentation de la revue. Nous avons triplé le nombre de pages. Nous en sommes à 125 pages, ce qui fait 500 pages par an. Hein, vous
Oui,
savez.
c'est un très très
Et,
beau volume, oui.
il y a quatre numéros. Et nous avons décidé de faire une large place aux écrivains, aux créateurs et particulièrement aux poètes d'ailleurs, qui sont au fronton, vous avez
Oui,
remarqué, hein,
oui, oui,
des textes que nous présentons. Notre idée, c'est qu'évidemment, l'Ugaï Sabé soit leur revue. C'est qu'ils viennent vers nous et nous leur ferons la meilleure place possible. Et de la même manière, parmi les choix que nous avons faits, donc à l'occasion de ce 100e anniversaire, nous avons réfléchi à renouveler complètement la formule à proprement parler. Nous avons réfléchi à nouveaux frais. Qu'est-ce que peut être une revue littéraire occitane aujourd'hui, 100 ans après la création du Gai Sabé, en plein 21e siècle, que doit-elle être? Et notre idée, c'est qu'elle doit parler aussi comme vous le faites d'ailleurs, des livres qui sortent. Or, on n'a jamais publié autant en Occitan qu'aujourd'hui. Et on
Voilà.
n'a jamais publié autant de poésie qu'aujourd'hui. Et ce que nous allons faire, ce que nous faisons, nous avons commencé, vous avez déjà deux numéros de la nouvelle formule sous les yeux, le troisième arrive dans quelques jours. Ce qu'il y aura dans la revue, toujours, ça sera des comptes rendus, des analyses, des critiques, systématiquement, parce que il me paraît important qu'il y ait un lieu dans lequel, un lieu de référence en quelque sorte, dans lequel il est important d'être publié, d'être lu, par lequel on va être lu, connu, et aussi dans lequel on peut se tenir au courant de ce qui s'y
De
fait.
ce cas.
Voilà. Alors ce n'est pas le seul centre d'intérêt de la revue, mais c'en est un, et pour nous, évidemment, il correspond complètement à la volonté des initiateurs.
On va illustrer, si vous voulez bien, ce que vous venez de dire par un extrait donc de lecture de cette revue, le numéro 551, par un des textes de Franck Bardoux, Loup d'Ivan d'Emma Soubérino.
Au divan d'Emma Soubeyran. Une mare de lutz, très satengude. Dintro al jardi, es une genuet, la scène de sobre juste un pas. La canson s'acaba et s'esface, din la sabre del darenla. Et tout ce que nous tenons en car, de ma belle unus d'Aïsara, pousco d'estelles, pels azuels. Indicible beutat bintetris. Arras de la sabou saline, d'unos pels al sol aplantados, ebiste tan serenot, ufla cando candu, se mutant el aragna al fons de las mementas, danas, leues facats, tournant a cada cop, plus patis terrenals, cum un que pren la mar, sense mira et sense anne. Et des cris d'un ramel, des fous entre la barthe, entre l'aïbartos, Macar cis, tros atros, Bastille de Cansus, Esplugan d'albe en alba, L'aspel spel novos de sebo, Talun que falactu, mudant a cadempu, du personnage à l'autre. Nun sem pas so que nous adben, ma so qu'en cado cor amo contre suberne, trop que de tanta ma, nun yajo aman amante, ma sunk amour subrel non res.
Merci. Alors, je précise que Franck Bardou, nous avons eu le plaisir de faire une émission avec lui il y a peu de temps, et que cet ouvrage est extrait d'une publication de Trobabox, et qu'il est dans les deux langues. Hein. Donc, ce que vous venez d'entendre, vous pouvez aussi l'écouter en français. Alors, donc, la poésie, j'ai trouvé, avait quand même une place, ce qui est tout à fait naturel, hein, une place prépondérante. Mais il y a également des réflexions, par exemple, sur la langue.
Oui. Alors oui, c'est aussi... il faut imaginer qu'une revue littéraire, donc en occitan, n'est pas proposée dans les mêmes conditions qu'elle l'est en français aujourd'hui, par exemple, ou en espagnol. C'est-à-dire que nos lecteurs n'ont pas tous la chance d'avoir suivi des cursus scolaires ou universitaires en occitan, et que beaucoup de questions touchant la langue, son avenir, son enseignement aussi, sa pratique, se posent à eux. Et ils n'ont pas toujours eu la possibilité donc d'aborder ces questions par eux-mêmes ou dans l'institution scolaire ou universitaire. Donc, l'Ougaï Sabé, c'est cela aussi. C'est-à-dire que les meilleurs spécialistes sont invités à prendre la plume sur des sujets. Alors, la langue est un sujet évidemment inépuisable. Pourquoi ? Parce que ce qui se construit aujourd'hui, grâce à l'école en général, hein, mais aussi autour de l'école, par des revues comme celle-ci, c'est l'occitan de demain. Il est évident qu'on ne parle pas le même occitan qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, tout cela est terminé. Les occitans locaux sont mal en point, et ce qui est de l'occitan d'aujourd'hui, c'est la langue de communication, c'est la langue de création. La langue de communication, eh bien, tout simplement, elle est codifiée, il faut qu'elle soit codifiée. Et nous parlons de ces questions de codification de la même manière que nous mettons un exemple, la langue aussi, des articles, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, des deux côtés, cette question est abordée, elle est traitée et elle vit dans la revue. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'écrivains qui autrefois écrivaient, ou de jeunes écrivains surtout, autrefois auraient écrit dans l'occitan de leur pays, écrivent un occitan standard, c'est-à-dire que la référence, c'est la langue de l'école. Et la revue n'est pas en retard par rapport à l'école, l'institution scolaire française. Aujourd'hui, les sujets de bac, les sujets de brevet, les sujets de CAPES, les sujets d'agrégation, puisque nous avons une agrégation d'occitan depuis maintenant 2 ans, sont donnés en occitan standard. Vous voyez, tout ça est une évolution dont nous prenons toute la mesure et que nous accompagnons. Voilà. Il y a bien sûr une part de volontarisme, vous l'entendez bien, dans notre démarche, mais elle correspond, elle n'est pas contre nature avec ce qui se faisait dans le Gaï Sabé il y a 20, 30 ans, ou même 100 ans.
Alors tout ceci, c'est la place prépondérante quand même de l'école. C'est peut-être un peu la faiblesse quand même aussi de l'avenir aussi de cette langue qui repose.
Absolument, absolument. Hein. Vous faites bien de poser la question. C'est une langue, alors on sait bien que la transmission par tous les moyens, comme vous le faites ici dans cette radio, est essentielle. La transmission familiale, n'en parlons pas, chaque fois qu'elle est possible, mais elle n'est pas vraiment encouragée, disons-le. Oui. Et donc, c'est bien sûr l'école qui est là. Alors, bon, ici, c'est l'Ougaï Sabé, mais cet aspect-là des choses, dites-vous bien qu'il ne nous échappe pas. Il se trouve que l'Ougaï Sabé a été fondé donc en 1919, et quelques années après, en 1926, les mêmes ou presque, c'est-à-dire Prosper Estieux, et le chanoine Salvat, l'instituteur et le curé, enfin tout
Oui.
ça est très savoureux, et emblématique aussi d'un engagement pour la langue occitane, parce que on peut voir cela comme une histoire de Pépon et Don Camillo. Bon, on peut très bien en sourire, et au contraire, peut-être être interpellé par cette union sacrée autour d'un objectif transcendantal qu'est la langue. Bon, enfin, en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fondé une institution d'enseignement pour enseigner la langue à distance. Et c'est le fameux Collège d'Occitanie. Un des enfants du Gai Sabé, en quelque sorte, c'est le Collège d'Occitanie. Et qui a maintenant 80, 13 ans, 14 ans. Vous voyez, donc, cette préoccupation a toujours été présente. Il est évident que ni une revue, pour si intéressante qu'elle soit, et nous pensons qu'elle l'est, et ni un établissement associatif d'enseignement à distance ne remplaceront le système scolaire français dans un pays comme le nôtre. Enfin, chacun fait les efforts qu'il peut, et naturellement, c'est à cela que nous sommes attentifs.
Alors cette langue, je pense à Franck Bardou par exemple, dont on vient d'entendre un texte. Franck Bardou, c'est pas sa langue maternelle.
Non.
Aurélia Lassac, qui est dans ce numéro également, qui est une poétesse occitane de haut vol, ce n'est pas non plus sa langue. C'est son père lui a
C'est
appris,
sa
mais
langue
paternelle,
paternelle,
son père.
c'est déjà pas si mal. Donc, c'est sa langue. Non, mais nous en sommes là, de la même manière que si, vous savez, bon, on peut le dire pour la langue française, on peut dire c'est la langue maternelle, mais à partir du moment où on écrit à partir sur un arrière-fond d'études scolaires et universitaires sérieuses et aussi de lectures sérieuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui prétendraient spontanément écrire en français ou en occitan de la poésie et qui n'auraient pas ce background culturel que l'école donne et que la fréquentation des œuvres donne, ben, ils ne feraient pas une œuvre très intéressante. Bon, ça, nous le savons. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, un, il est possible d'apprendre l'occitan, deux, il est possible de créer un occitan, et donc il n'y a plus qu'à faire le travail. Ce qu'il nous donne, c'est un exemple merveilleux. Vous avez parlé de deux personnalités tout à fait attachantes. Franck Bardou, avec son enthousiasme, sa volonté de créer une œuvre, ben, je suppose que vous en avez parlé.
Bien sûr.
Il y a quelque chose d'impeccable dans ce qu'il fait, d'extraordinaire, de volontaire, et qui fait qu'il fait œuvre. Franck Bardou existera dans l'avenir. Ça, je pense que nous sommes quelques-uns à en être déjà persuadés.
Son éditeur dit, c'est le Jim Morrison de la poésie occitane.
Bon, alors, voilà un éloge qui doit lui aller droit au cœur, pour beaucoup de raisons, mais voilà. L'autre, vous avez parlé d'Aurélia Lassac, mais Aurélia Lassac, c'est aussi un écrivain du XXIe siècle. Alors, elle est toute jeune, elle a toutes les qualités, vous l'avez dit, et alors, c'est pas par hasard, naturellement, que dans la nouvelle série, nous avons mis en premier un poème d'Aurélia Lassac, parce que nous avons voulu ouvrir ce numéro sur une femme, sur la poésie, et sur quelqu'un qui réussit. Il faut en finir, enfin nous avons fini depuis longtemps, mais il faut en finir avec l'idée que l'Occitan pourrait être je ne sais quelle survivance, je ne sais quel enfermement, je ne sais quel provincialisme. Aurélia Lassac est traduite dans 20 langues aujourd'hui, et je crois qu'elle vit de sa plume, en écrivant en occitan. Alors ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train peut-être de briser cette espèce de signe indien qui a si longtemps pesé sur notre malheureuse langue.
Oui, si on demandait par exemple à Clément, est-ce que l'occitan était ta langue maternelle?
Ah non, moi je l'ai appris en calandrette comme beaucoup de gens de ma génération, hein. C'est-à-dire que nous sommes toute une génération de ce qu'on appelle vulgairement les néolocuteurs. Nous nous distinguons comme ça de ce qu'on appelle les locuteurs naturels, entre gros guillemets, parce que perso, j'aime pas trop cette expression. Mais voilà, nous sommes toute une génération qui a choisi, enfin, qui l'a appris à l'école et qui a choisi de se la réapproprier d'une façon ou d'une autre, que ce soit donc par l'écrit, donc en l'occurrence Aurélia qui est un poil plus jeune que moi donc a choisi la poésie. Bon, moi j'ai choisi dans le temps j'avais choisi le journalisme et aussi l'action associative. Voilà, mais chacun on a voulu se réapproprier la langue à notre façon, soit par l'écriture ou par autre chose.
Et voilà le résultat.
Bien, on pourrait peut-être lire un extrait, si vous voulez bien, de nouveau. On va reprendre ce numéro, parce que je reprends sur Bardou. Mais je pense que c'est peut-être un peu long, mais il y a deux pages. Peut-être, ça me semble intéressant. Nous le commenterez ensuite.
Bien volontiers.
Donc, une anatourna ou anasimica. John Ronald Reuel Tolkien est une des grandes ingénieuses du siècle XX, homme qui a concevut, formulate et définite le genre fantasy, inventant littéralement une mythologie pour Angleterre. Son œuvre principale, l'œuvre de Sabide, la qui travaillait tous sans se relâmer, sans jamais parvenir à trahir la satisfaction d'une version finale, est et demeurera le Silmarillion, qu'une des sous fils publiait dans une version courte et cohérente. La commençait d'écrire durant la guerre des 14-18 et qu'en servicio d'une armade britannique sur le front des Aligats en France contre l'Allemagne. Cada capítulo d'aquel livre est d'une richesse incroyable pour Yo Enjimbra, un film magistral et spectaculus, mais J.R.R. Tolkien est connégut huey et partout dans le monde comme étant l'auteur de la conclusion narrative d'aquelle fresque immense, couvrant siècles et siècles, conclusion titulée Le Seigneur des Anneaux. Or, à questo racconte ben guet al jour comme l'objet d'une supplique. Son édito Bouliot est demandable une séguide narrative et un raconte sans ses prétentions, improvisate puis établie per escrit, raconte que l'auto britannique inventait poc à poc en la comptant à ses quatre enfants à partir d'elle si ou imaginaire et formidable. Le raconte en question s'intitulable Bilbon le Hobbit, paraît en 1937 et connaît un poli de succès en Grande-Bretagne. Tolkien pensava sempre mai al seu Silmarillion, immense et formidable, que non pas à las aventures del Hobbit, mais à force de pressions amistoses, nous porgiguet le seu Seigneur des Anneaux entre 1954 et 1955 per le succès mondial que sa bengar. Le Silmarillion, Bilbon le Hobbit et le Seigneur des Anneaux sont dans la 13 livres qui appartiennent à la joyeuse de la littérature mondiale, putant en avant le mal qui règne dans aquest monde, et auburat d'avant d'aquel mal, la qualitat de l'amistat, de la leialtat et de la fidélitat. Ero donc mai que désirable de poder tourner à trouver tout ou partie d'aquelle œuvre en version occitane. Non nous podem remens que regaudi de poder léger enfi Bilbon le Hobbit en langue nostre, merci al travail junt de Sergi Biaul et Eric Chaplin. Nous que nous fan jamais res, non risquons gaire de s'engana ni d'endura criticos. L'imperfection s'égure que ne pourront trouver. La langue qu'a d'une labeille imperfaite très qui commence de se manifester. Sergi Biaule, maître de sa langue, pourront discuter per à coup de las interjections bastides sur l'authenticité spontanée d'une langue qui pratique en écrivant. Mais quand un hobbit s'estomac en déclarant nostre saigne, de qui saigne pot ben parla. Des rues illuvatar, le créatou immobile. Mortal del monde tolkienian, courogandai passo al pedel pech en terre hobbit, segur qu'esper y festeja lo solstice d'estiu. Mas qu'est-ce que San Juan dont nous parle ou traduit tout? Des Jésus et des apostoles, dit l'univers de Tolkien, non n'y a ni l'ombre d'une, estant que toutes les si os racontes se débattent dans une période de plamaïque antique et immémoriale. Accodit, pudent testimonia d'une esmaï que nous n'avions mai connégut, d'espuer qu'avait découvert la traduction à l'Utsita de Nouvel Testament, pel canon del Seigneur Cubain, canon de Cubain. Nous à quelle autre traduction tabé, une autre personnage, et tout du plat costumier, ou quitte Jésus, tournable et spectaculeux au même près n'est pas stécar, sans cap miracle, simplement en usant d'une langue qui relate de l'amour, des aujols, de la vie intime, des anciens. Un Jésus qui semblable sous tout même, plein mais réel, et à questes sentiments qui tournent domina quand les gens adhèrent une histoire qui tout une pensant qu'on aise, per la bédia légide en français, en anglais, c'est mai biste et rebiste al cinéma. Les hobbits et les nans s'y prennent une espèce extraordinairement humaine et nous semblent délicieusement baisés et complices, jamais non mesurant la manque que d'aille sur l'absence de la langue, tant plat comme al moment où la tourne en trouba à qui on non l'espéra ben mai. Espérant la séquipe.
Bon, c'est un texte un peu long, mais on voit véritablement l'intensité de la préoccupation. Et bon, on retrouve aussi quand même chez Bordeaux cette espèce de mysticisme un petit peu, hein?
Exacerbé
Oui,
parfois,
oui. Oui.
mais aussi un sens aigu de la
Voilà.
critique.
Oui, voilà.
C'est-à-dire
Oui.
que c'est emblématique. Donc, merci d'avoir choisi ce texte d'abord. Il est emblématique un peu de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de signaler qu'il y a une traduction de Tolkien en occitan, bon, ce qui est déjà en soi quelque chose de merveilleux. Mais il faut remercier les auteurs, les traducteurs et les éditeurs parce qu'ils prennent des risques. Mais surtout, eh bien, Lugal Sabé fait une critique. Voilà, c'est-à-dire qu'il place l'œuvre dans son contexte, il rappelle à tous les gens de bonne foi et qui s'intéressent donc à la littérature en général, Tolkien fait partie, hein, de la littérature mondiale, c'est bien clair, il rappelle ce qu'il en est, et puis eh bien, il articule une critique sans concession, tout en indiquant son plaisir.
Oui.
Mais voilà, c'est ça exactement que nous voulons faire. Et donc, voilà un texte emblématique un peu du projet du Gaï Sabé.
Il faut aussi dire qu'il y a aussi toute une réappropriation de la littérature dite heroic fantasy, ou alors de science-fiction, ou bien de fantastique. Parce que c'est un genre qui a été un petit peu, on va dire, méprisé par les auteurs
Oui.
occitans, considéré un peu comme un sous-genre. Mais vous avez donc une réappropriation, avec notamment la traduction, je crois que ce ont été les premiers à le faire, comment ça s'appelle, d'Harry Potter, par Pernoust, par la revue Pernoust, donc, qui a fait une traduction en occitan gascon de Harry Potter. Donc Bilbo le Hobbit, et vous avez aussi une revue en ligne, comme ça il n'y a pas de concurrence, une revue en ligne spécialisée justement dans la science-fiction, fantasy, etc., qui s'appelle Diou Nègre, en référence donc à un livre d'un auteur montpelliérain qui s'appelle voilà, un auteur montpelliérain, médecin. Ah oui, il y en a beaucoup comme ça. Voilà.
Non, c'est
Oui.
Roquette, Roquette, oui. Mais ce n'est pas lui, c'est un autre.
Ce n'est pas lui, non,
Oui,
puisqu'il est encore vivant, il est encore ici parmi nous. Enfin voilà, donc voilà, il y a. Et ce sont des auteurs, la plupart des auteurs qui gravitent donc autour de cette revue, bon, sont plus jeunes que moi pour la plupart. Donc voilà, il y a vraiment un renouveau à ce niveau-là, quoi.
d'accord. Bon, donc j'avoue qu'il y a un élan d'optimisme là, hein,
En tout cas, d'élan créatif, et on
oui.
parle de gens très jeunes,
Oui.
parce que ce
Oui, bien
sont eux qui
sûr.
portent la
Oui, oui,
langue,
oui, oui.
ce sont eux qui portent les
Mais
intérêts
oui,
du
mais oui.
jour, c'est eux qui mesurent les enjeux dans le monde dans lequel on est. Les jeunes ne se trompent pas là-dessus. Et ce n'est pas une affaire d'expérience, c'est une affaire de coup d'œil. Ils ont le coup d'œil. Et on le sent bien d'ailleurs dans ces textes. Vous avez raison d'évoquer aussi tout ce pan de la littérature qui fait partie désormais de la littérature mondiale. Enfin, tout ceci n'est pas, ne nous est pas étranger. Voilà, c'est comme ça. Et peut-être un mot de plus. Nous accordons une grande importance aux traductions. C'est-à-dire que nous pensons, d'une part, lorsqu'elles nous arrivent, eh bien, nous les signalons et nous les critiquons de telle manière que c'est une manière de les mettre en valeur. Et deuxièmement, dans les textes que nous publions, il y a des auteurs, des poètes qui ne sont pas occitanophones et que nous traduisons, et nous le faisons assez systématiquement. C'est-à-dire que nous allons les chercher dans la littérature suédoise, anglaise. Il y a un compte rendu dans le numéro suivant des sonnets de Shakespeare, d'une traduction des sonnets de Shakespeare par Jean-Claude Fauré. Tout ceci fait partie de nos préoccupations. Nous pensons aussi qu'une langue, si elle veut avoir un avenir, doit traduire les chefs-d'œuvre de la littérature universelle. S'il n'y a pas ce fond-là, il y a une amputation culturelle qui ne permet pas à une langue d'accéder, je dirais, à un fonctionnement normal.
Je vois avec grand plaisir qu'il y a dans le numéro 552 un texte traduit, je pense que c'est Jean Penant peut-être qui a dû le traduire, de Svante Svantrom,
Oui.
hein, qui est un de nos amis, et qui est suédois. Qui est suédois. Donc il doit être d'ailleurs suédois et qui s'intéresse beaucoup d'ailleurs à l'Occitan, puisqu'il suit lui-même des cours
Des cours
des
d'occitan.
cours d'Occitan.
Il a participé à sa propre traduction.
Oui, ah oui,
Donc,
voilà. Bon, ça
voilà.
c'est formidable. Oui.
Et alors, voilà, là aussi, on découvre de nouveaux
Oui.
profils d'écrivains, c'est-à-dire que à la partition entre francophones, occitanophones qu'on a pu connaître dans les temps pas si lointains, eh bien, de cette habitude, on est passé maintenant à un intérêt. Alors, des occitanistes vers le français, il me paraît évident, parce que, évidemment, c'est notre culture. Bon, évidemment, mais dans le sens inverse aussi.
Voilà,
C'est-à-dire
c'est
que
ça, c'est le sens
l'intérêt
inverse,
de
là.
deux Armstrong pour être traduit,
Oui.
ce n'est pas
Voilà.
simplement le fait d'être traduit dans une langue
Oui,
supplémentaire, c'est
oui.
le fait d'apprendre l'occitan.
Oui.
Et de s'intéresser à sa propre
Oui.
traduction, d'entrer dans le détour des
Oui.
mots
Oui.
et des notions. Et ça, évidemment, c'est une attitude très encourageante et très, très positive, enfin, qui est peut-être, peut-elle être au noyau d'une définition d'une citoyenneté culturelle nouvelle en pays d'oc. C'est-à-dire que, où vraiment, lorsque l'on prétend être un homme cultivé, on ne peut pas ne pas savoir ce qu'est l'occitan et ne pas en tenir compte dans son approche, même si l'on écrit en français ou en anglais ou que sais-je.
Donc c'est très bien vraiment quand j'ai vu que notre poète suédois a été traduit en... Voilà. C'est aussi l'honneur qu'il rend aussi à la langue d'oc. En tout cas, merci beaucoup. On rappelle où est-ce que on peut comment peut-on s'abonner au Guessaber?
Abunamen. @gaysabé.com.
Voilà. Vous trouverez toutes ces références sur notre site, lespoètes.site. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément.
Merci à
Merci
vous.
beaucoup, monsieur Salo Lousteau.
Merci.
Et au plaisir. Alcôb
Alcob
Kéven.
Kéven,
Alcôb
merci.
Kéven. Ainsi s'achèvent, les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.